vie étudiante et associative,
la grande voile,
écologie,
il y a pas de voile, abruti,
politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Au sommaire du sous-marin aujourd'hui, nous recevons Emma, Héloïse et Clément. Ils viennent nous parler des éclectiques à l'occasion de l'édition hivernale du festival. La lutte pour les droits des femmes en Palestine est liée à celle de l'autodétermination du peuple palestinien. C'est tout le propos de Sandrine Mansour, historienne et chercheure. Elle est la deuxième invitée du sous-marin. Les chroniques maintenant, comme vous l'avez peut-être remarqué hier, Isabelle, notre spécialiste cinéma, n'était pas là, trop occupée avec le festival Premier Plan, mais elle est quand même passée ce matin pour enregistrer une petite chronique sur les voisins et voisines, le thème du festival. Isaïe, qui est en stage avec nous cette semaine, est aussi allé voir un film à Premier Plan, lui il est parti voir Pelican Blue, un film qui est en compétition dans la catégorie long métrage. Et Paolo est aussi avec nous ce soir dans le studio, il vient nous parler du Panama, qui représente un enjeu crucial avec son canal pour les États-Unis de Donald Trump. Et en fin d'émission, on va écouter une petite fiction sonore réalisée par les jeunes du club de football d'Angers Vaillant FC. On est ravis d'être avec vous pour cette nouvelle émission. C'est parti, le sous-marin lève les voiles.
18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Salut Paolo.
Salut.
Ça va bien ?
Ça va très bien.
Alors lundi dernier, lors de son investiture, Donald Trump a affirmé vouloir prendre le contrôle du canal du Panama. Ces menaces exercées sur le gouvernement panaméen intensifient les tensions autour de l'un des corridors économiques les plus empruntés au monde.
Nous ne l'avons pas donné à la Chine, nous l'avons donné au Panama et nous allons le reprendre. Cette déclaration de Donald Trump lors de son investiture accentue les tensions autour du canal du Panama. Ce dernier, situé entre les deux plus grands océans du monde, le Pacifique et l'Atlantique, représente un enjeu crucial pour les puissances économiques internationales. Avant la construction du canal, les navires marchands contournent le continent de l'Amérique du Sud en passant par le Cap Horn pour atteindre le Pacifique. Le canal est une prouesse technologique permettant des échanges beaucoup plus rapides et moins chers. Cet enjambement du continent américain profite notamment aux États-Unis ainsi qu'aux puissances européennes et asiatiques qui le traversent beaucoup. Donald Trump veut contrôler le commerce maritime mondial en possédant ce point de passage économique majeur. Alors, face aux menaces de Trump, le gouvernement panaméen a rappelé que le canal était une possession du Panama et qu'il n'avait pas l'intention de le céder. Le canal est le principal moteur économique du pays. Il contribue à plus de 20% des revenus du gouvernement. Le président du Panama, José Raúl Mulino, a répondu sur X au nouveau président des États-Unis. Il a assuré que le canal appartient et continuera d'appartenir au Panama. Le gouvernement du pays est inquiet de la communication de Trump, qui n'a pas exclu d'utiliser la force militaire pour reprendre le contrôle du canal. Ce mardi, le Panama s'est adressé donc aux Nations Unies en déclarant dans une lettre que les déclarations de Donald Trump étaient, je cite, « préoccupantes ».
Donald Trump affirme que le canal du Panama est une possession américaine. Si la construction a bien été achevée par les entreprises américaines en 1914, le canal est intégralement contrôlé par le Panama suite à un accord avec le gouvernement américain en 1977.
Avant son indépendance, le Panama est rattaché au gouvernement de la Colombie. En 1882, l'entrepreneur français Ferdinand de Lesseps, déjà constructeur du canal de Suez, signe un accord avec la Colombie pour débuter les travaux du canal. En 1889, les constructions sont interrompues à cause des affaires de corruption qui éclatent en France. Lesseps ne parvient plus à financer les travaux, il est coupable de corruption pour remplir ses fonds d'investissement. Ce scandale politique met fin à l'intervention française au Panama. Les États-Unis, conscients des opportunités économiques qu'offrirait un éventuel canal, prennent en charge la fin de la construction. En désaccord avec le gouvernement colombien, ils aident les indépendantistes panaméens. Ces derniers, grâce au soutien des États-Unis, promulguent leur indépendance le 3 novembre 1903. Deux semaines plus tard, le nouveau pays indépendant vend le canal à Washington pour achever les travaux. En 1914, le canal est inauguré. Donald Trump affirme que le canal est une possession américaine. Il l'a été tout au long du 19e siècle. Cependant, en 1999, le canal est entièrement rétrocédé au gouvernement panaméen suite au traité entre son général Omar Torrijos et le président américain Jimmy Carter, conclu en 1977. Ce traité abroge celui de 1903 et donne le contrôle total du canal au Panama.
Aujourd'hui, 14 000 navires traversent le canal du Panama chaque année, soit 6% du trafic maritime international. Dans ses déclarations, Donald Trump cherche à intimider la Chine. C'était déjà son principal rival économique lors de son premier mandat.
Oui, les États-Unis sont les principaux utilisateurs du canal du Panama. 74% des navires traversant le canal chaque année sont américains. Le canal est capital pour les échanges externes des États-Unis avec les autres puissances mondiales, mais il est aussi d'une grande importance pour l'économie interne du pays. Une large part du trafic se fait entre les côtes Est et Ouest états-uniens. Les États-Unis perçoivent avec inquiétude l'influence grandissante dans cette zone de leur rival économique, la Chine. Cette dernière multiplie les passages par le canal. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Amérique latine ont été multipliés par 34 depuis 2017. La puissance asiatique possède deux ports stratégiques aux extrémités du canal, celui de Balboa, côté Pacifique, et celui de Cristobal, côté Atlantique. Les États-Unis craignent une utilisation militaire de ces deux ports en cas de conflit ou de crise économique mondiale. La Chine pourrait ainsi contrôler les passages des navires marchands états-uniens. En menaçant le Panama de reprendre son canal, Donald Trump avertit donc également Pékin que les États-Unis surveillent de près les manœuvres chinoises sur ce corridor économique.
Merci beaucoup, Paolo.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine.
Un tout petit peu plus tôt cette fois-ci, parce que c'était un peu short.
Ouais, j'étais un peu retard, ouais.
Salut Isaïe. Alors, on est ravis de t'avoir parmi nous jusqu'à vendredi à l'occasion de ton stage de 3e.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler du film que tu as vu au festival Premier Plan, Pelican Blue. C'est un film d'animation qui a la particularité d'être un documentaire.
Oui, le film commence dans les années 90, le mur de Berlin vient de tomber. Dans la même année, le rideau de fer qui sépare le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest est démantelé.
Et la destruction du rideau de fer, elle a eu quelles conséquences ?
Les gens ont commencé à avoir le désir de se déplacer en dehors des frontières nouvellement ouvertes. Les billets étaient trop chers, donc trois jeunes hommes ont eu l'idée ingénieuse de falsifier les billets pour avoir la possibilité de visiter l'Europe à moindre coût. Ils ont donc mis en place un commerce et vendu des faux billets de train à des millions de personnes. Même si c'est illégal, la justice a décidé de ne pas les condamner. Ils ont estimé que la gravité des faits n'était pas suffisante. Ils ont donc permis à de nombreuses personnes de découvrir un monde qui leur était jusqu'à là interdit.
Et comme on le disait au début, la particularité de ce film d'animation, c'est qu'il a vraiment un aspect documentaire.
Cette œuvre cinématographique se présente comme une adaptation d'une histoire vraie. Elle s'appuie sur des audios, des gens qui témoignent de leur vécu, d'événements narrés dans le film. De plus, des extraits de vidéos et d'images complètent le film. Les villes citées dans le film m'ont permis de comprendre mieux la...
Et quelle critique tu peux faire à ce film ?
C'est un peu particulier parce que j'ai trouvé que les images d'archives apportaient un plus, mais elles étaient toujours amenées de la même manière. Alors c'était un peu répétitif parce que les images d'archives racontaient la même chose que les dessins. Le message se répétait. En revanche, ce que j'ai préféré, c'est la façon dont le film est dessiné. J'ai trouvé que les dessins laissaient transparaître le documentaire. Les personnes avaient une vraie contrainte de mouvement, ils bougeaient vraiment comme des humains. Les personnages dessinés sont vraiment devenus des alias des personnages qui ont vécu cette histoire. J'ai trouvé que les dessins représentaient bien les objets d'époque à travers le récit. On voit encore l'importance de toute l'industrie de l'imprimerie alors qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé.
Merci beaucoup Isaïe pour ta première chronique. Alors je rappelle que le film Pelican Blue, il est retenu dans la compétition du festival Premier Plan qui se termine le 26 janvier.
Merci.
Voisins, voisines, c'est le thème de cette 37e édition de Premier Plan, un festival dont on est partenaire. Et depuis le début de la semaine, vous avez entendu plusieurs interviews, chroniques, comme celle d'Isaïe, en lien avec le festival. Et aujourd'hui, c'est Isabelle, notre spécialiste cinéma, qui vient nous parler de ses voisins et voisines de séances pendant ce festival.
Alors, ce que j'aime à premier plan, en dehors de, évidemment, de la super programmation, c'est la rencontre avec mes voisins, voisines de festival. Généralement, ça commence par est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous ? Non, mais c'est libre, hein, vous pouvez vous installer. Et à partir de là, la discussion démarre. Il y a ceux qui viennent de loin, comme Jessica, qui s'occupe d'un cinéma monosalle dans une salle de Haute-Savoie. Elle prend des notes sur son petit carnet pour raconter à son retour. Il y a cette dame avec qui je parle, de Nicolas Philibert, en étalant ma science, avant d'apprendre qu'elle est LA productrice du cinéaste depuis 40 ans. Il y a celui qui, pendant la Dolce Vita, ça dure quand même 3 heures, hein, ronfle doucement et ça fait sourire ses voisins voisines. Il y a celui qui n'arrête pas de gigoter à côté de moi. Mais comme il est très très grand, je me dis que c'est mieux d'être à côté de lui plutôt que derrière. Le pauvre, il est plié en deux, les genoux bloqués par le siège. Alors je compatis forcément. Compartiment 6, c'est ce super film finlandais de Juho Kuosmanen. Ça se passe dans un vieux train de nuit entre Moscou et la mer Arctique. Un train où l'on dort, on saucissonne, on fume et on boit de la bière. Et pourtant, c'est l'odeur soutenue d'un célèbre parfum de luxe qui chatouille mes narines. Mais c'est celui de ma voisine. C'est comme une erreur de casting olfactif. Il y a Françoise, que je ne croise qu'une fois par an, toujours au même endroit, à la fin de la séance, dans la queue des toilettes du festival. Tu sors de quel film ? Tu as aimé ? Ah bon, c'est un film terrifiant sur les voisins-voisines ? Et Catherine, elle prend chaque année une semaine de vacances pour venir à premier plan. C'est son luxe, son rendez-vous à ne pas manquer. Ces impromptus de cinéma, je les adore. Des moments furtifs de rencontres, de conversations, d'échanges sur le cinéma. Premier plan, c'est ça aussi.
Merci Isabelle pour cette chronique. On écoute tout de suite Minimum de Bon Enfant, un groupe qu'on retrouve à l'affiche de la collection Hiver des Éclectiques. On en discute juste après sur Radio Campus Angers.
Yeah.
le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Les éclectiques font leur retour du 29 au 31 janvier prochain au programme Papier Tigre, Meymouna, Bon Enfant, Rest Up, Mackenzie Layton et Francis Lung. Ça se passe à Cholet, à la médiathèque, au musée d'art et d'histoire et au jardin de verre. Avec nous pour en parler, Emma, Héloïse et Clément. Bonjour.
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 Alors, bien proche. Alors vous êtes en service civique et en alternance aux éclectiques, c'est ça? Vous vous occupez de quoi un petit peu au festival?
Alors moi, du coup, Emma, je m'occupe des actions culturelles avec Victor, qui est le chargé d'actions culturelles. Et donc, c'est créer des ateliers pour permettre d'intégrer la musique et les artistes dans différents lieux en dehors du lieu de base, donc des lieux de la santé, des écoles, etc.
Moi, c'est Clément. Je suis en alternance en communication. Donc, je vais m'occuper un petit peu de toute la partie marketing des réseaux sociaux ainsi que du site web.
Okay.
Et moi, c'est Héloïse. Et du coup, je m'occupe de la coordination bénévole et de tout ce qui est production, donc l'organisation du festival.
Alors, cette programmation, elle est bien différente de la dernière collection automne. On ne retrouve pas de grandes têtes d'affiche comme Zao de Sagazan. C'est quoi un peu l'esprit de cette édition hivernale des éclectiques?
L'esprit pour la collection d'hiver, ça se veut un peu plus intimiste avec des artistes un petit peu locaux, donc pour mettre en valeur un petit peu donc ces artistes-là centrés sur la pop, la punk et le rock principalement sur cette collection.
Ok, ouais. Comment vous décriviez-vous un peu cette programmation?
Tout comme Clément, un petit peu intimiste et hors du commun, puisqu'on va dans des lieux vraiment inhabituel, oui, pour des festivals, enfin, sauf le Jardin de Verre, mais sinon la médiathèque et le musée, c'est un peu inhabituel.
Le mercredi 29, on retrouve Mackenzie Layton et Francis Lung à la médiathèque. Le jeudi 30, c'est Meymouna au musée d'art et d'histoire. Et après, le vendredi 31, c'est au Jardin de Verre. Mais pourquoi avoir choisi d'étaler ça sur 3 jours et sur ces 3 lieux différents?
Je pense déjà que c'est pour mettre en avant les différents lieux qu'on peut retrouver à Cholet et attirer aussi le public choletais aux éclectiques. Et permettre de découvrir ces lieux-là et ces artistes de manière, on va dire, un peu innovante et de réapproprier.
Moins conventionnelle.
Ouais. Ouais.
Ok. Donc, tu le disais tout à l'heure, chez les éclectiques, il y a la volonté de promouvoir la scène locale. Pour cette édition, vous avez ramené Rest Up, un trio angevin aux influences post-punk et post-rock. Comment vous les avez découverts?
Moi, je ne connaissais pas du tout ces artistes-là. Donc, c'est. Dans la direction Thierry Bidet qui a ainsi sélectionné programmateur donc de cette collection et j'ai pu découvrir ce groupe de jeunes groupe de punk post-rock donc vraiment avec un univers bien à eux et franchement c'est super cool de faire des découvertes comme ça d'artistes très très inspirants.
Chez les éclectiques, ce qu'on disait, il y a la volonté de faire promouvoir la scène locale. Mais dernièrement, dans Pays de la Loire, votre festival, il a fait également les frais des baisses de subventions qui ont été ordonnées par la région et sa présidente Christelle Morancet. Comment votre budget, il a été impacté aux éclectiques?
Alors nous, aux éclectiques, on a perdu 26 000 euros à peu près, plus ou moins, de budget des subventions. Et forcément, ça a un impact déjà de 1 sur la programmation et sur les moyens aussi qu'on peut allouer au festival et à toutes nos petites activités à côté. Et aussi, bien évidemment, à l'équipe, puisqu'on a eu pas mal de départs et de changements. Et du coup, on est en pleine restructuration actuellement du festival pour quand même pouvoir continuer à diversifier ce qu'on fait et surtout à faire... faire des festivals et faire kiffer les gens, c'est le principal, donc il faut continuer. Mais c'est vrai que c'est pas simple.
Ouais, ça a eu un impact global sur le festival.
Ouais, vraiment. Sur vraiment tous les points, ouais.
En plus de ces coupes budgétaires, votre festival, il a également connu des difficultés lors de la dernière édition hivernale. Le public a été un peu moins au rendez-vous que d'autres années. Comment ça a été analysé, ça? Pourquoi ça a un peu moins bien marché?
Hivernale ou automnale?
Automnale, ouais. Je voulais dire, oui, excuse-moi.
Je pense qu'il y a un changement aussi des mentalités d'écoute, si je peux traiter ça comme ça. Parce qu'en fait, maintenant, étant donné que les gens ont un peu moins de budget, à mon avis, ils veulent aussi une programmation où il n'y a que des artistes qui leur plaisent. Et ils sont peut-être aussi un peu moins curieux. Et étant donné que les éclectiques, c'est aussi basé sur une programmation qui est très diversifiée, forcément, nous, on est là pour un public qui se veut curieux. Et si on ne l'a pas en retour, ça peut être un peu compliqué. Mais on va tenter de continuer et d'essayer d'éveiller les curiosités
Ouais, comment vous faites pour repartir dans ces cas-là? Vous avez décidé un peu pour cette édition de resserrer les styles musicaux là, pour cette édition?
Bah, pour l'édition d'hiver, dans tous les cas, c'est vrai que ça, elle se veut toujours plus intimiste et avec des artistes un peu plus locaux. Donc on essaye de resserrer les styles et d'un peu plus trouver ce qui peut plaire au public concerné, sachant que le public choletais est un public un peu plus familial, peut-être un peu plus âgé aussi que le public de l'automne. Donc on espère qu'on va le retrouver.
Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un avenir pour les festivals de musique? Il faut vraiment faire évoluer ce modèle
Pour
en général,
ouais. Pour les festivals de musique,
ouais.
Bah, moi je pense que oui, après comme l'a dit Emma, les mentalités d'écoute elles changent. Maintenant, le public, il est peut-être un peu moins curieux qu'auparavant, on va dire, dans leur volonté un petit peu d'écouter de la musique. Ils vont surtout sélectionner des grosses têtes d'affiches ou être sûr en fait d'apprécier ce qu'ils veulent vraiment voir, et peut-être moins découvrir de nouveaux artistes, ou en tout cas moins dans, on va dire, la jeunesse actuelle. Mais je pense qu'il faut continuer à persister et évoluer avec son temps, c'est le principal pour moi.
Ouais, et puis les festivals, ils sont souvent obligés d'augmenter leurs tarifs parce avec l'inflation, ouais. En général, donc les gens ont plus de mal. Pour les tarifs de cette collection hivernale des Éclectiques, le mercredi soir, la soirée, elle est gratuite. Le jeudi, c'est 2,50€. Et le vendredi, les billets sont à 17€ avec possibilité de tarifs réduits, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Et,
qui peut accéder à ces tarifs réduits, par exemple? Les étudiants, ils ont...
Ouais, il y a les étudiants et les demandeurs d'emploi, etc. Et c'est des tarifs qui se veulent assez bas aussi pour permettre l'accessibilité et que l'argent ne soit pas un frein, voilà, et que tout le monde puisse découvrir.
Les abonnés aussi ouais. Au Jardin de Verre, tout ça.
Ok. Et pour cette édition, c'est à Cholet, il n'y a pas de soirée sur Angers qui sont prévues. Quand est-ce qu'on retrouve les Éclectiques à Angers?
C'est même sûr pour l'édition du printemps, donc du 3, 4 et 5 avril. Donc pour l'instant, trois noms étaient annoncés sur les réseaux sociaux. Donc on va avoir Théodora le 3 au soir, donc le jeudi soir. Le vendredi, on va avoir aussi Malik Judy. Et le samedi, on va avoir Jacques.
Ok, donc faut attendre un petit peu encore pour Angers, mais pour tous ceux qui veulent aller à Cholet, c'est le week-end prochain, enfin de mercredi à vendredi du 29 au 31. Merci beaucoup Emma, Héloïse et Clément d'avoir été avec nous ce soir. Donc la billetterie est déjà ouverte pour le festival, c'est ça?
C'est ça, oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On se retrouve pour la suite du sous-marin juste après un morceau de Mackenzie Layton qu'on retrouve mercredi prochain à la médiathèque de Cholet pour les Éclectiques. À tout de suite sur Radio Campus Angers.
Is it cold in Colorado when the sun goes down? Saw you played a show at the Red Rocks to a sold-out crowd. Is it cold in Minnesota all year round? What kind of roots grow underneath all that snow? Spring in Mississippi with magnolias blooming rose.
Mercredi dernier, le planning familial organisait une conférence « Femmes libres, Palestine libre » avec Sandrine Mansour. Née d'un père palestinien et d'une mère française, elle est historienne et chercheure au CRIHIA, le Centre des recherches en histoire internationale et atlantique de l'Université de Nantes. Elle est également la coordinatrice régionale de la Fédération régionale du planning familial des Pays de la Loire. Lisa l'a rencontrée.
Sandrine Mansour, quel lien vous faites entre votre parcours, vos expériences et votre rôle au sein du planning familial? Vous n'êtes pas engagée par hasard, j'imagine.
Non, bien évidemment, les choses ne se font jamais par hasard. Elles sont, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous en fait. Et quelque part, mon histoire personnelle a donné rendez-vous à mes combats, aussi bien par le fait d'être historienne sur la Palestine, mais aussi la question des droits des femmes, puisque c'est quelque chose qui m'a toujours portée. Et donc les deux se croisent parce que c'est aussi les mêmes combats à différentes échelles.
Premièrement, il est important de comprendre, vous l'avez répété durant cette conférence, que la lutte pour les droits des femmes en Palestine est liée à la lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien. C'est une double revendication qu'il faut porter. Alors pourquoi? Et donc vous expliquez que la première source de violence faite aux femmes, c'est en fait l'occupation militaire israélienne.
Oui, bien évidemment, parce que la question de l'autodétermination du peuple palestinien, elle est portée dès le départ, y compris par les femmes. Et même si elles revendiquent plus d'éducation pour les filles, plus de liberté économique, etc., plus de soutien, il n'en demeure pas moins qu'elles savent que la base de toutes ces revendications, c'est d'abord l'autodétermination. Vous ne pouvez pas être libre si vous n'avez pas d'espace pour votre liberté. Or, la colonisation israélienne, accompagnée de sociocides, d'épuration ethnique, aujourd'hui de génocide, vise à empêcher un espace où la liberté pourrait s'exprimer. Et dedans, bien sûr, les victimes sont aussi bien les femmes que les enfants, que les hommes. Et donc aujourd'hui, clairement, la première et la plus grande violence qui est impactée sur les femmes, c'est celle de l'occupation et de la colonisation et de l'expulsion et du génocide et de l'épuration ethnique perpétrée par Israël.
Quelle est la situation des femmes à Gaza? À quoi sont-elles confrontées en matière de santé notamment?
Aujourd'hui, j'ai voulu dire l'horreur absolue. Les hôpitaux sont quasiment tous démolis, elles n'ont pas de conditions d'hygiène, il manque de tout, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'accès aux soins, il n'y a pas de médicaments et c'est une catastrophe. Donc oui, c'est vraiment, tout est manquant alors que c'était certes une prison à ciel ouvert, mais avec des infrastructures qui fonctionnaient très bien, des remarquables hôpitaux, de remarquables chirurgiens qui sont pour beaucoup tués ou qui sont estropiés ou qui ont été blessés ou qui sont emprisonnés aujourd'hui. Donc elles n'ont plus accès à la moindre, même les règles, avoir des serviettes pour ces règles, accoucher avec des césariennes à vif, sans anesthésie. Vous imaginez quand on vous doit vous recoudre le clitoris parce que vous avez été ouverte au moment de l'accouchement, la sensibilité, il y a plus de 800 nerfs à ce niveau-là, donc ça va faire excessivement mal. Et ça, c'est d'ailleurs des choses qui ne sont jamais racontées.
Ça participe à la déshumanisation du peuple palestinien?
Tout à fait. Elle se fait à tous les niveaux et avec un mépris absolu des grandes puissances occidentales.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les origines et les racines de la lutte des femmes palestiniennes contre les puissances coloniales pour l'indépendance tout d'abord et puis ensuite contre Israël?
La résistance des femmes palestiniennes, elle s'est faite dès le début, c'est-à-dire du moment où on a été informé qu'il allait avoir un projet au détriment de la population locale. Et elles ont été avec les hommes et en parallèle, c'est-à-dire qu'elles ont accompagné dans les associations qui sont devenues après des partis politiques, mais également elles ont créé leurs propres associations également. Et elles ont poursuivi, et elles poursuivent jusqu'à aujourd'hui sur ces deux registres-là pour le clamer haut et fort en tant que femme. Et haut et fort en tant que palestinienne, tout court. Et quand je vous ai montré l'image de Leila Khaled, qui a été la première femme à détourner un avion, elle ne l'a bien évidemment pas fait toute seule, mais ça montre comment elles ont rejoint le mouvement de résistance palestinienne.
Alors que ces résistances, elles sont dans l'imaginaire collectif plutôt associées aux hommes?
Oui, mais la résistance, elle a toujours été aussi féminine. Même quand on reprend la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes aussi ont été résistantes. Et les Palestiniennes, c'est exactement la même chose. Elles ont résisté à tous les niveaux, y compris au niveau politique, au niveau... Il y a eu aussi tout le travail, parce que quand les hommes sont, par exemple, emprisonnés, il y a tout le relais, par exemple, au niveau des familles, des personnes emprisonnées. Donc ça aussi, c'est une forme de résistance. Ce qui a été évoqué, le fait de mettre le sperme de son mari qui est en prison... dans son vagin par le biais d'une subterfuge pour le récupérer. Ça aussi, c'est de la résistance. La résistance prend beaucoup de formes.
Est-ce que depuis la France, par exemple, il y a une tendance à exploiter ou à caricaturer le sujet des inégalités hommes-femmes au Proche-Orient ?
Ça, c'est une évidence. La question coloniale, elle est vraiment à travailler parce que les esprits sont colonisés. Les Français, moi, je sais qu'on m'a déjà dit, toi, ça se voit pas que tu es une arabe. Et parce qu'il y a un mépris, de toute façon, c'est du racisme et qui aujourd'hui, en plus, évolue dans une sphère où c'est assez libre. Et c'est assez OK avec la société d'être raciste. On le voit avec les médias, mais on le voit aussi par les attaques verbales qui peuvent exister dans la société. Donc oui, il y a un vrai problème à travailler, la représentation qu'a la France du monde arabe, de toutes les richesses de ce monde arabe, de la diversité du monde arabe, parce que c'est un monde arabe, mais c'est des mondes en fait. La Palestine, c'est pas le Liban, c'est pas l'Irak, c'est pas l'Afrique du Nord, c'est pas le Maroc. Chacune a sa spécificité, les accents ne sont pas les mêmes. Il y a des choses communes, mais il y a beaucoup de choses qui enrichissent les unes les autres et qui sont différentes.
En juillet 2023, pour le monde diplomatique, Hicham Alaoui déclarait « Pour avoir une chance de s'imposer, les luttes féministes gagneraient à ne plus s'aligner sur les solutions toutes faites par l'Occident, mais à davantage se tourner vers les ressources locales et les expériences de terrain. » Est-ce qu'on ne tient pas assez compte du fait que les femmes, elles ont leur propre voix, leur propre façon de résister selon leur territoire et où qu'elles soient ?
Écoutez, c'est tout justement ce que j'ai essayé de dire par rapport à l'importance de retravailler la question du féminisme. Le féminisme a été aussi complètement pris dans les travers du capitalisme et y compris du patriarcat. Moi, j'ai vu des femmes être aussi violentes que des hommes parce qu'à un moment donné, elles avaient récupéré par le biais des combats féministes une place à l'équivalent. Moi, quand il y a quelqu'un qui est à la tête de l'OMS et qui est une femme, pour moi, c'est pas une réussite féministe. Elle tombe dans le travers du système capitaliste. Donc, elle est au service du projet capitaliste, donc patriarcal, donc colonial, donc raciste, donc etc. Donc il faut vraiment qu'on retravaille et l'expérience que nous faisons, c'est là où la Palestine est un enjeu pour le féminisme. L'expérience que disent les femmes palestiniennes et que la société palestinienne, malgré le génocide qu'elles apportent au regard de l'Occident et des Occidentaux en général, est vraiment porteur, et c'est là où j'ai dit, de nouveaux modèles à construire ensemble. Et c'est, il faut changer son regard, il faut changer son disque dur, et il faut penser autrement.
Est-ce qu'on a assez soutenu les femmes palestiniennes ?
Pas du tout. Les Palestiniens, de manière générale, ne sont pas soutenus. La société civile française, oui, soutient, mais parce que c'est une société civile qui, depuis longtemps, a compris la question, mais elle est malheureusement peut-être pas assez importante. Et au niveau politique, il y a eu des personnalités politiques qui ont été soutenantes et dès qu'elles ont eu un poste élevé, elles ont changé leur posture. Il y a un vrai problème avec la politique et la question de la Palestine.
Je me posais une question sur le terme de féminisme qui est très attaché à l'Occident. J'ai lu plusieurs études qui disaient qu'en fait on ne pouvait pas forcément appliquer ce terme, que ce n'était pas juste de parler de féminisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Bien évidemment, parce que c'est une vision. Pourquoi au début de la conférence j'ai commencé en disant je suis contre les statistiques sur les femmes et les hommes et les enfants ? Parce que à quel titre je ne vais pas intégrer ceux des hommes ? Moi, mes fils sont des hommes, donc ça veut dire que s'ils meurent, je ne les compte pas. C'est horrible pour une femme de dire ça. Vous imaginez la souffrance ? Si c'est votre père, comment vous réagiriez ? On vous dit votre père est mort, mais on ne va pas le compter parce que c'est un homme. Ça n'a pas de sens. Et cette vision occidentale de la femme et donc du féminisme et de la question, y compris du genre, parce qu'en fait, paradoxalement, même dans des sociétés conservatrices, parfois il y a un conservatisme sur certaines questions, pas sur d'autres. Il faut aller plus loin, il faut creuser. Et la société mondiale n'est pas linéaire. Il faut que les blancs, au sens critique, je dis ça, dominants, changent de regard et surtout acceptent un peu d'humilité et d'apprendre de la part des autres.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Pour finir, on écoute une fiction sonore réalisée par les jeunes du club de football Angers Vaillant FC. finalement pas de chronique de fiction sonore réalisée par les jeunes du Football Club Vaillant FC. Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. En attendant, on se retrouve lundi pour une émission spéciale Premier Plan avec l'équipe de Radio G. Merci à Sarah à la technique aujourd'hui. On vous souhaite de passer une très belle soirée sur le 103FM et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.